Dupont le matin, au FM 93, avec Paul-Raphaël Charon.
S'il y a quelqu'un dans la ville de Québec ou dans la grande région qui avait mis son cadran à 7h12, là, j'imagine que les chances sont quand même minces. Là. Mais si c'était le cas, ça réveille anti-pain, par exemple. Tu te réveilles puis tu commences tout à sprinter vers la cuisine. Là. C'est ça. J'espère que malgré la grisaille, vous passez une belle journée, que vous passerez surtout une belle journée en ce mercredi 21 juillet 2021. Mon nom est Paul-Raphaël Charon, en remplacement de Steph Dupont. Pascal CV est là, Vez est là et Alexis Sanson. Merci de choisir le 93.
Il en reste pas gros pour Alexis Sanson.
Non, il en reste...
Si vous voulez en profiter de cet être...
Deux et demi.
Deux et demi.
Ouais.
Après ça, il est tel un mercenaire.
Oui. Mercenaire.
Il nous quitte pour...
On perd notre pantoufleur radin.
Oui, exactement. On parle de notre pantoufleur radin.
C'est un drôle de titre, mais c'est correct. Pantoufleur radin.
Pantoufleur radin, on va le noter, ça. Là,
oui.
Pantoufleur radin. OK, à 7h13, voici vos nouvelles. Ce sera pas long, pantoufleur.
Radin, c'est important radin. De le noter, ça. Je te remercie du surnom, Pascal.
Ça me fait plaisir.
C'est gentil, quand même.
Il y a plusieurs choses dans l'actualité ce matin qu'on risque d'avoir envie de commenter. Mais par quoi as-tu envie de commencer, Pascal?
La nouvelle au Québec en ce moment, c'est ce 14e féminicide parce qu'on cherche encore le suspect dans cette affaire-là, qui est l'ex-conjoint, si je veux dire ça comme ça, de la femme qui est morte. Il y a des recherches qui se poursuivent. On veut trouver le suspect dans cette affaire-là. Je vous rappelle, meurtre d'une femme de 32 ans lundi dans le secteur Parc Extension à Montréal. Les autorités ont fouillé hier soir dans les eaux de la rivière des Prairies parce que, selon les enquêteurs, on peut penser que le conjoint, l'ex-conjoint de la victime aurait pu s'enlever la vie en sautant à l'eau. On a aussi appris dans les dernières heures que c'est un membre de la famille à l'étranger en Inde qui aurait averti le service de police local du drame qui venait de se produire au Québec. C'est le Journal de Montréal qui note ces informations-là. Là. Alors, je vous explique. Le drame se passe... L'homme en question n'avait pas le droit d'approcher cette femme-là. Interdiction de l'approcher, d'être en relation avec elle. Il avait été accusé en mai dernier de menaces de mort envers elle. Donc, vous voyez le scénario. Peut-être un drame qui aurait pu être évité. C'est à vous d'en juger pour la suite. Mais suite à ces événements-là, l'homme appelle sa famille en Inde pour montrer des images de ça. Là. Oui, de cette femme-là qui... gît dans son sang, c'est absolument atroce. Alors, dans l'enquête, on a appris ces informations-là. On cherche toujours le suspect, comme je vous disais. Alexis a recensé ce matin qu'on avait retrouvé un corps dans le coin du pont Jacques-Cartier. Est-ce que c'est celui-ci? Il n'y a pas de corrélation qui a été faite, mais quand même, on vous note la nouvelle. Donc, dans ce tragique événement de lundi.
Et c'est aussi dans cet événement, donc, si j'ai bien compris, là, que le gars avait fait des menaces.
Mm-hmm. Mm-hmm. Menace de mort.
Menace de mort. C'est que moi, il y a deux questions que j'ai envie de poser par rapport à ça. Là. Ce sera pas un long commentaire, mais d'abord, pourquoi il n'était pas détenu? Qu'est-ce que ça prend de plus pour qu'on... Tu sais, je sais qu'il y a aussi été question, on a parlé avec Pierre-Hugues Beauvenu récemment du fameux bracelet électronique. Là. Mais si le gars porte un bracelet électronique, la différence, c'est qu'il tue probablement quand même sa conjointe, mais on l'attrape peut-être avant qu'il disparaisse. Mais le bracelet électronique fait juste signaler que le gars est rentré dans un périmètre. Mais s'il veut enlever... S'il est décidé et qu'il s'en va à tuer, il va à tuer.
Ouais, peut-être que, par contre, elle serait blessée, mais pas décédée aussi.
Peut-être, mais ma question, c'est pourquoi il n'est pas détenu? Il a fait des menaces de mort. Mm-hmm. On le savait, on l'a relâché. Pourquoi?
C'est la première question. Ça fait trois depuis le début de l'année que c'est comme ça. Trois qui sont libérés en attente de ou dans des circonstances.
Qu'est-ce que ça prend de plus pour qu'on dise, toi, tu restes dans cellule? Ce bout-là, moi, je le comprends pas. Et l'autre question, je sais que ça va soulever les passions, mais je pose la question, j'affirme rien. Là. Est-ce que les communautés culturelles sont surreprésentées dans ce genre de crime-là? Et la raison pour laquelle je pose la question... C'est qu'à un moment donné, il va falloir que quelqu'un la pose. C'est pas vrai que la définition de l'honneur, de la fierté, le rôle de l'homme par rapport à la femme, c'est pas vrai que c'est partout pareil dans toutes les cultures. Vous me ferez pas gober ça, là, au nom de belles vertus, de belles intentions, là. Et moi, j'ai le sentiment, des fois, quand je regarde, ça soulève la question chez moi. Je me demande, coudonc, c'est-tu juste parce que c'est moi qui retiens les informations pas de la bonne manière, ou il y a une vraiment une surreprésentation, j'ai pas la réponse ce matin. Mais faudrait qu'à un moment donné qu'on se pose la question. Voilà.
Oui, c'est important. Et puis, ça me rappelle un segment que j'avais fait avec Myriam Segal sur, justement, le crime organisé, tout ce qui est proxénétisme. Et Myriam, à un moment donné, là, c'était un week-end très précis dans ma tête. Là, elle ouvre le journal, puis elle voit tous ceux qui ont été, accusés par les policiers dans les derniers mois. Puis là, elle regarde ça, puis elle dit, ça se peut, là. Ça se peut que ce soit juste un addon. Mais elle dit, c'est impossible pour moi de passer rapidement sur le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de communautés culturelles différentes qui sont représentées en ce moment dans le journal. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez inclusif? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez d'aide? Est-ce que, parce qu'elle était allée jusqu'au point de se poser la question, c'est parce que quand ils arrivent ici, ils n'ont pas de travail, puis pour eux, ils trouvent un travail, puis leurs mœurs sont plus légères. C'était intéressant le débat. Puis elle avait parlé avec des experts par la suite qui, justement, elle posait la question en disant, il faut qu'on la nomme, cette question. Il faut qu'on la dise. Pas parce que moi, je fais de la discrimination, c'est pas parce que je suis raciste. Il faut juste qu'on voit les vraies choses comme elles sont.
C'est pour ça que je pose la question. Puis j'ai même pris le temps de penser à la façon que je le formulerais. C'est rare que je fais ça. D'habitude, ça sort assez sans filtre.
Mais là,
je vous le dis, là, j'ai pensé. Oui, c'est sensible. Mais la pire chose qui peut arriver pour moi, c'est que les gens ne le soulignent pas. Je me souviens exactement de cet article-là dans le journal. Il y avait une espèce de mosaïque avec les visages des presque que des gars là, qui s'étaient fait prendre proxénétisme. La vérité, là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, pas que, mais beaucoup, beaucoup du proxénétisme, surtout à Montréal, qui vient des gangs de rue. Puis les gangs de rue, là, l'intégration d'un gang de rue, ça se fait à travers les contacts, puis un chum d'un tel, puis on se tient en gang, ça s'appelle des gangs. Puis le petit frère de l'un va commencer à faire des jobs pour le grand frère, puis il va l'intégrer dans sa gang. C'est des sous-groupes sociaux. Et quand tu regardes la fameuse mosaïque, j'avais le même sentiment, là, il y a une surreprésentation des personnes noires. Alors là, la question, c'est pourquoi? Je le sais pas. Puis l'autre certitude, c'est il faut tous se regarder dans le miroir et se demander qu'est-ce qu'on fait avec ça. Là. Tu sais, je veux dire, je suis pas en train de dire les noircis, les étrangers, ça. C'est pas ça du tout. Mais si tu le nommes pas, puis si tu poses pas la question, puis que tu la soulèves pas, puis que tu l'adresses pas aux personnes responsables et aux autorités, il y a un phénomène quand même qui se passe, mais de peur de se faire critiquer, on le dit pas. Ça marche pas, ça peut pas marcher comme ça.
Puis inquiétez-vous pas, là, le commentaire que Paul passe, je le connais, il fait en tout respect, puis il passe pas à côté des carpentiers de ce monde comme on nous écrit par rapport à ses enfants.
Est-ce que vous m'avez entendu, je vais répondre à cette personne-là, est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il y avait pas de blancs dans les féminicides, qui ont fait des féminicides cette année? Si vous avez entendu ça, là, lavez-vous les oreilles comme il faut, c'est pas ça que j'ai dit. Je me demande si les communautés culturelles sont pas surreprésentées. Surreprésentées, ça veut dire plus que dans la proportion de la population normale. C'est ça que ça veut dire surreprésentées. Comprenez bien ce que je dis. Je le sais que c'est sensible, mais c'est important.
Il n'y a pas de généralité non plus à faire par rapport à la culture. Aujourd'hui, on va connaître l'avenir. Si on est entre les lignes et on lit le devoir ce matin, on va dire que l'avenir n'est pas rose du côté du projet de GNL Québec. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, il sera à Saguenay cet après-midi, va annoncer la décision de son gouvernement concernant ce projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ça passera pas. C'est vraiment ce qu'on peut lire justement là, dans le devoir. Le projet d'énergie Saguenay qui n'a pas franchi l'étape de l'acceptabilité sociale. On est autour très grossièrement de 50-50 depuis quelques mois là, dans les débats auprès des citoyens et des communautés autochtones. Et ça n'a pas réussi non plus à convaincre le BAP. Alors, c'est vraiment un gros élément d'actualité, même si vous croyez que c'est loin de vous. Là, c'est des discussions qui perdurent depuis des années. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a constaté une légère hausse des cas de COVID-19, il commence à repasser des messages aux jeunes parce que c'est surtout chez les jeunes là, qu'on constate ça. Hier, sur Twitter, il a rappelé que le gouvernement prépare le terrain pour un passeport vaccinal si la situation se dégrade. Et il rappelle que les individus qui vont avoir reçu 2 doses vont s'assurer d'un retour à la normalité, soit conserver les passe-droits qu'on a actuellement dans la situation et ou en avoir encore plus. Alors ça, ce sera pour la rentrée, entre autres. Et on regarde la France aussi, les cas quotidiens de COVID-19 qui sont montés en flèche. On est autour de 18 000 dans les dernières 24 heures. La semaine dernière, il y en avait moins de 7 000 cas par jour, pour vous donner un approximatif. C'est beaucoup le variant Delta qui fait des ravages en ce moment. Et c'est surtout qu'il y a moins de 60 % des Français qui sont pleinement vaccinés. On voit aussi, à titre comparatif, dans le monde, des endroits qui sont moins touchés parce que la vaccination est plus forte. président français, justement, qui va prendre la parole sur tout ça aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui va présenter là, avec le Conseil de défense pour tenter de traiter cette reprise de cas de COVID-19 comme il se doit pour pas que ça dégénère. On parlait des concerts tests à Québec et Radio-Canada qui a mis la main sur peut-être les détails qui entourent ces concerts tests de 20 000 personnes prévues à l'extérieur, 5 000 personnes à l'intérieur. Entre autres, dans l'appel d'offres, on préciserait que l'événement aurait lieu le 25 septembre sur les plaines d'Abraham pour l'extérieur, au centre des congrès pour l'intérieur. On parle toujours de 50% de contenu d'expression francophone. Pour ceux qui avaient peut-être des espoirs de beaucoup d'artistes internationaux, c'est encore dans la strate francophone qu'on vise faire ces événements-là.
Je suis pas capable d'entendre l'expression « expression française » sans entendre Bob Graton qui dit « Canadien français d'expression française française ». C'était écœurant.
Événement qui aura une durée minimum de 2 heures, maximum de 3 heures. C'est toujours selon les appels d'offres. Probablement qu'on ne portera pas le masque, mais on va accueillir des spectateurs vaccinés uniquement. C'est quand on regarde là, les scénarios possibles dans les papiers obtenus par Radio-Canada. C'est ce qu'on mentionne. Et il y a un sondage ce matin du côté du Devoir. Plus de la moitié des Québécois qui ne font pas confiance au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Ça vaut la peine de poser la question. Qu'est-ce qui vous inquiète encore pour la rentrée 2021, septembre 2021, en tant que parent? Là, qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce que vous voyez qui n'a pas été réglé encore? Même enseignant, prononcez-vous, tout le monde qui est touché de près ou de loin par l'impact sur le système d'éducation. Mais Jean-François Roberge, qui a déçu plus de la moitié des Québécois durant la crise de la COVID-19, c'est ce que mentionne un sondage de Somme rapporté par Le Devoir. On dit que sa cote de confiance est passée de 61% en octobre à 51% en juin dernier. Et il y a d'autres personnes à titre comparatif là, qui sont visées par ce sondage-là. Par exemple, Éric Girard, qui est ministre des Finances, on dit que 69% de la population fait confiance au ministre des Finances. Mais surtout, le quotidien précise que 80% de la population est satisfaite de la façon dont le gouvernement Legault gère la situation pandémique.
C'est tout?
C'est complet.
Ah ben, c'est vrai, j'avais oublié qu'on était des vacances de la construction. Il me manquait ce bout-là.
Ah, ben, moi, j'ai un sujet pour toi, si ça t'intéresse, que j'ai mis pour plus tard là, dans mes bulletins. Là,
ouais, après la pause, peut-être?
Ouais, ben là, t'as changé. OK, pas.
Non, non, c'est parce que j'écoutais, mais...
j'avais pas... dit, je termine avec le sondage.
Ah, ben, j'écoutais pas tant que ça, d'abord. Je devais checker le soccer. 7h25 minutes.
Salutations à mon père. Je sais pas si mon père est-tu à l'écoute?
Hein?
Si jamais... Ça doit être lui qui m'écoutait pendant le bulletin de nouvelles.
Non, il y a des auditeurs qui écoutaient, c'est
non,
sûr.
Non, je t'écoutais d'une oreille, moi aussi.
Les auditeurs, ils n'ont peut-être pas toute la TV pour regarder le soccer. Là. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Là.
Hey, okay. J'ai regardé, Paul, concernant ton questionnement en début de bulletin sur les féminicides depuis le début de l'année.
Ouais.
J'ai essayé de regarder un peu les derniers meurtres. En fait, tous les meurtres qui sont survenus depuis le début de l'année.
Tous les meurtres ou les féminicides?
Tous les féminicides, okay. Meurtres conjugaux, là, j'aurais dû le préciser par la suite.
Parce que l'excellent exemple que m'a donné l'auditeur, d'ailleurs, tantôt, de Carpentier pur souche, laissé faire, là. Carpentier, de la nouvelle, il a tué ses enfants, pas sa femme, là. Ça a l'air d'une nuance froide, mais c'est une nuance qui est importante. Moi, je vous parle de crime d'honneur, là. Ça, c'est ma théorie, là. Après ça, cette théorie-là m'appartient. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, là. Mais donc?
Ben, c'est que dans les 3 derniers cas où la personne avait été accusée et que par la suite, elle a tué sa conjointe, ou aurait, dans le dernier cas du côté de Montréal, les personnes qui sont accusées ou suspectes, ou en tout cas, Thomasy Cahin, ça, c'est quelqu'un qui est originaire de Coudjouac, dans le nord du Québec. Nouredine Mimouni, ça, c'est ici à Québec, dans Limoilou, origine de l'Algérie. Dans le cas qui nous concerne du côté de Montréal, c'est quelqu'un qui est d'origine indienne. Si on regarde depuis le début de l'année, les autres personnes, les accusées, ou en tout cas personnes qui sont responsables de ces meurtres-là, Éric Levasseur, Enoch Fénelon, j'ai pas été capable de trouver l'origine dans ce cas-ci parce qu'au début, on n'en parlait pas visiblement. Mm-hmm. Par la suite, Jean-Yves Lajoie, David Joly, un meurtre ici dans une communauté du nord du Québec. Le conjoint s'est enlevé la vie, on n'a pas le nom de la personne. Benjamin Soudain, Richard West, bon, je vous ai parlé de Nouredine Mimouni, de Thomasy Cahin, Brendan McIntyre et l'autre personne, c'est un triangle amoureux, 3 personnes visiblement là, qui seraient d'origine haïtienne.
Bon, alors, ultimement, ce qui reste à faire, c'est de regarder, ben, c'est ça, ces gens-là viennent d'où? Est-ce que c'est des immigrants, des Québécois de plusieurs générations, de deuxième génération? Bon, je sais pas. Mais il faut, à un moment donné, tout ce que je dis, dans le fond, là, c'est qu'il faut s'autoriser. Il faut autoriser les personnes qui sont en position d'autorité, justement, puis nos décideurs, là, à regarder ces paramètres-là, à les croiser, puis à un moment donné, il faut le dire s'il y a une tendance. C'est juste ça. Moi, ce qui est, je suis pas en train de dire, il y a-tu une tendance, oui, non, puis je dis juste ce que je crains, c'est que des fois, on ait peur d'adresser ces enjeux-là parce qu'on se dit, ah oui, mais là, on va se faire dire ci, on va se faire traiter de ci, on va se faire traiter de ça. On peut pas se laisser abattre par qu'est-ce que les gens vont dire. Il faut quand même, puis s'il y en a pas de tendance, tant mieux. Mm-hmm. C'est juste que s'il y en a une, ben après ça, il faut agir. Tu sais, c'est pas juste de faire comme, ah ben regardez, je le savais, je l'avais dit, hein, y a plus de d'immigrants. Non! Si la tendance existe, il faut trouver des solutions. C'est comme ça qu'on règle des problèmes.
T'sais. Je retiens des choses de ça. Se poser la question sans encourager la discrimination, le racisme et tout ça.
C'est sûr,
regardez si on offre assez d'aide aux gens qui immigrent ici et qui ont besoin peut-être soit d'aide psychologique ou encore d'emploi rémunéré ou encore d'aide pour leur famille, etc. Aller chercher de l'aide pour toute personne qui vit des émotions difficiles et qui ne sont pas capables de les canaliser, mm-hmm. puis l'offrir.
Ben oui.
Puis en dernier lieu, avoir une ouverture du côté de la justice pour peut-être être un petit peu plus poignant dans notre façon d'agir et de réagir.
Ah oui, ça c'est clair. Arrêtez là, de demander aux gens, s'il vous plaît, allez pas tuer votre femme. Mm. Vous avez fait des menaces de mort, là. S'il vous plaît, là, allez pas chez eux, là.
On l'a vu ce que ça a fait.
Ben là, à un moment donné, il faut arrêter. Tu sais, je comprends là, le principe. Il y a plein de principes en justice auxquels j'adhère absolument. Là. Bien sûr, pas la réadaptation, mais tu sais, le fait de pouvoir...
La réinsertion sociale, c'est ça.
La réinsertion, puis oui, le pardon, la deuxième chance, je crois, tout ça. Mais quelqu'un qui a fait des menaces de mort à l'endroit de sa femme, là, on l'enferme jusqu'à temps qu'il subisse son procès, c'est tout. On fait pas des menaces de mort aux gens dans la vie, c'est tout. OK, c'est assez. 7h29 minutes. Bougez pas, on vient.
D'autres segments scientifiques et intelligents s'en viennent. Faut juste les trouver.